studio de Radio FMR, bonjour. Mais pourquoi je monte toujours mon micro? Voilà. Donc vous écoutez le service mondial de l'ORT, l'ORT FMR. Enfin, maintenant c'est devenu WFMR depuis la privatisation. Thomas, on est chaud, on est wesh-wesh.
On est wesh-wesh,
on est wesh-wesh.
C'est super.
Bonjour Sabrina, ça fait longtemps.
Bonjour.
T'as intérêt à mieux te poser ton micro et tu vas voir, ça va grincer quand tu vas le mettre en place. Bonjour, nous sommes en direct et en public. Nous attendons le passage de relais de nos amis de Radio-Radio, juste pour dire en plus qu'aujourd'hui il y a le changement d'horaire, donc je ne sais pas si nos amis de Radio-Radio vont en profiter pour changer l'heure de l'horloge pour qu'elle soit un peu moins en leur faveur, ça m'embêterait un peu. Petite annonce aussi hors antenne, c'est un petit bonus là pour ceux qui nous écoutent sur le net, c'est que j'ai appris ce matin que Gilles Ratier vient d'envoyer formulaire pour le prix de la critique de la bande dessinée, donc je fais partie des 40 des 40 votants.
Donc tu vas commencer la lecture.
Et non, cette année j'ai le net, donc je reprends toutes mes fiches.
Ah mais c'est les BD que t'as déjà chroniquées.
Oui bien sûr. Oui bah je vais prendre les BD que j'ai déjà chroniquées bien sûr. D'accord. Donc il faut que j'en choisisse 5 et ensuite il faut que il faut couper les portables, j'ai oublié. Il faut qu'ensuite il y en aura 3 qui vont garder, on va voter sur là-dessus.
En fait ça doit être une BD obligatoirement française.
Non. Ah, ça peut mais être paru dans l'année.
Ça peut être comics, manga, BD franco-belge.
Voilà, exactement, quoi. Oui. L'an dernier, d'ailleurs, il y avait Taniguchi qui avait failli l'avoir.
Ah, pour le Sommet des Dieux.
Il y a 2 ans, pardon. Ah. Non, c'était pas pour le Sommet des Dieux, c'était pour le journal de mon père.
Et l'année dernière, qui c'est qui avait gagné?
J'ai complètement oublié.
D'accord.
Mesdames et messieurs, c'est le commandant de régie qui vous parle, auditeur de Radio FMR Service Mondial. Merci de nous écouter sur le flux Ogvorbis. Nos programmes vont débuter à partir de midi pile sur la région de Toulouse, en modulation de fréquence sur 89,1 mégacycles. Temps commun européen pour midi pile. Les sorties de l'appareil sont marquées sur votre écran, en haut à droite, par une croix ou un bouton rouge. La température au sol est de presque 20 degrés hein, quand même. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie dans l'attente de nos émissions normales et pendant l'atterrissage, l'hymne officiel vous est interprété par Fred Rabold und his Avarua Orchestra. Ah. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le samedi 29 octobre. Non, il fait plus gris maintenant, il fait beau, il fait chaud. Vous écoutez la radio. Je me demande si on est vraiment encore pas encore en été. Comme tous les samedis, FMR ouvre avec les magazines Supplément Week-end, BD, cinéma, télévision, suivi ensuite du cahier du sport. Et après, à partir de 15h du mix avec Zarma Farah et du reggae. Ouais, Poupa Christopher, 17h vie d'ordure. Ouais, du punk, 18h pour une fois que tu peux l'ouvrir. C'est de la radio interactive, donc vous appelez. 19h, Dada découvre la vie. 20h, Last Hétéro Experience. Ouais, Fabrice, Jésus in the Sky. 21h30, Liquid Sky, justement. Et à 23h, Breakbeat Experience. Donc voilà, comme d'hab, hein, Zou. Ouais.
Ouais,
on y va. Hein. Ouais, on envoie du bois déjà.
FMR.
éphémère. Vous n'aviez jamais écouté de radio.
Oui, bon, d'accord. C'est vrai que c'est encore, finalement, l'été. Je dirais, c'est un superbe été indien, parce que là, on va changer d'horaire, là, cette nuit. Hein. Attention, attention.
On gagne une heure.
Voilà, donc c'est 5 heures, heure d'été. Puisque je ne sais pas si on va... comment ils vont se démerder pour changer l'horaire, ça va être un peu chaud. Enfin, aujourd'hui, un programme supplément week-end. Bonjour Thomas.
Salut Xavier. Bonjour, salut Sabrina.
Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Eh oui, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue. On a un programme qui est extrêmement chargé, avec de la BD bien sûr, mais avec pas mal de cinéma. Et oui, Thomas a du retard par rapport aux semaines dernières. Hein. Je suppose que tu vas un peu rattraper.
Et oui, aujourd'hui, il y aura la spéciale Cronenberg. Non, c'était la blague de la semaine dernière. Ça.
Ça, celle-là, je te promets que tu vas pas t'en sortir comme ça. Voilà. Et puis voilà, Zou, on démarre avec vraiment une petite curiosité. Je dis pas qui c'est de suite. Allez, je casse le suspense, je dis qui c'est. Ben, il s'agit de D-Note, les piliers de la scène londonienne de l'acid jazz, vous savez, avec James Taylor Quartet. C'est vraiment très étonnant, c'est très différent de ce qu'ils font. L'acid jazz, c'est du jazz en fait, en général sous acide, etc. Et là, ils ont complètement varié, c'est plutôt... je sais pas, c'est pas vraiment drum and bass, c'est plutôt rave, acid, c'est plutôt surprenant. Ils sont passés vraiment à une autre rythmique en changeant de linéaire. C'est l'étonnante chrysalide que cet album Fuchsia Dog. Il est d'ailleurs publié non plus chez Dorado Virgin, mais sur le label d'une célèbre chaîne britannique. Non Thomas, ce n'est pas... C'est Channel 4.
Voilà. Ah, tiens, pour une fois.
Pour une fois. Ouais, c'est assez... Il y a des contretemps partout, c'est assez étonnant. Thomas, tu vas...
On va commencer la revue de presse.
Ouais, je sais, Sabrina, la pauvre, elle a l'impression d'être venue pour rien.
Non.
Non, pourquoi?
Bon, d'accord, ok. La revue de presse, Thomas.
Alors, c'est le magazine Cinéma Score de ce mois-ci, 2 euros, numéro 13, avec en couverture José
Quoi,
Garcia.
13, la BD? Non, pardon.
Non. C'est José Garcia pour la sortie du nouveau film de Richard Berry, La Boîte Noire. Et donc on a plusieurs pages, on a une interview de Richard Berry, on a une interview en forme de roman photo par un journaliste qui joue un peu le rôle de journaliste barré, un peu fictif, et en tout cas c'est assez poilant à lire. C'est une interview en roman photo avec des photos complètement barges, avec José Garcia avec plein de sang dessus, qui fait aussi la couve habillée comme ça. Il y a au moins 15 pages d'interview, enfin de pseudo-interview. C'est pour... Voilà.
Donc, c'est dans le style José Garcia nulle part ailleurs, ou José Garcia tel qu'il veut le faire maintenant, c'est-à-dire quelque chose un peu plus sérieux?
Entre les deux en fait, c'est un José Garcia barré, mais plus pas trublion du par ailleurs, c'est un peu plus barré, un peu ce que ferait Takashi Miike par exemple, tiens, quand on est au Marotte. Et puis à la fin, il y a aussi un article de deux pages sur un jeu vidéo, parce qu'ils ont une rubrique jeu vidéo aussi qui est vraiment qui tue, et justement le titre de l'article c'est ça tue Killer 7.
Non, c'est nul.
Voilà, regarde le design des personnages. Voilà. Et il y a une théorie du journaliste qui a écrit l'article sur dans quoi faut-il classer ce jeu. Est-ce qu'il faut le classer dans les jeux d'auteur? Et c'est là que débute une politique de jeux vidéo d'auteur qui a à suivre, avec des auteurs comme Miyamoto, Hideo Kojima, ouais, qui a fait Metal Gear et tout. Et voilà. Donc c'est bien une nouvelle problématique pour parler des jeux. C'est est-ce que ça correspond à un jeu d'auteur aujourd'hui?
C'est quand même assez étonnant, parce qu'on est passé du jeu vidéo qui était fait chacun dans son coin, par exemple Prince of Persia, Conan, oui, Barbar, etc., les jeux qu'on faisait sur Apple II, puis ensuite sur CPC 64, et encore c'était limite. Après, vu les puissances graphiques des machines comme l'Amiga, l'Atari, etc., Sid Meier était l'un des derniers avec Populous, on est arrivé vraiment à une problématique sur une puissance industrielle, puisque ça commençait à rapporter des ronds. On s'est arrivé sur PC avec les jeux Lucasfilm, là voilà, c'est la production cinématographique, hein, et là on revient justement vraiment à une logique d'auteur. C'est assez étonnant.
Tout à fait. Donc voilà, je vous recommande le nouveau numéro de Score. Vous lirez du jeu vidéo, mais aussi surtout du cinéma. José Garcia en couverture, 2 euros, c'est le numéro d'octobre.
Ok, on reste dans le numéro 13, si je puis dire, puisque le nouveau Mélusine, vous savez, la petite sorcière toute gentille dans Spirou, dont ils avaient fait une tentative d'histoire en un seul tome dans le précédent, ben là on en est au 13e Mélusine, qui s'appelle Superstition, ben tu m'étonnes. C'est toujours Gilson qui est au scénario, qui fait entre autres Garage Isidore, et Clark qui est au dessin, qui notamment a fait... des histoires de mafieux, des albums en une fois à chaque fois chez Fluide Glacial, oui. Donc Mélusine vient de sortir chez Dupuis, la charmante sorcière chez Spirou, qui séduit à la fois les enfants et les grands, les garçons et les filles. C'est assez étonnant, hein, pour ça, pour la réussite. Et ben il sort à temps, donc pourquoi, pour Halloween qui a lieu lundi soir prochain. Et ben sortir systématiquement maintenant les tomes de Mélusine pour la fin octobre, et ben ça tourne au marronnier. Dommage, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu. Voilà.
Mais tu chroniques des BD que t'as pas lu, toi?
Ouais, en fait, c'est le numéro 13, je suis un peu superstitieux, puisque 13, en général, c'est signe d'une belle daube.
Tu vois, moi j'ai lu le numéro 13 de Score et...
Il a pas relevé. 13, belle daube, BD.
Non.
Ticketi. Bon, d'accord, on enchaîne.
Belle daube.
ambiance salsa, ma foi, avec un truc qui ne va absolument pas dessus, si je peux dire. Il s'agit de Les Frustrés. La célébrissime série créée par Claire Bretuchet dans les années 70 vient d'être rééditée dans la collection low cost, si je peux dire, de J'ai lu, c'est-à-dire la collection Librio, ces bouquins qui sont à 2 euros. Claire Bretuchet, c'est l'une des femmes qui ont véritablement marqué de manière indélébile la bande dessinée française. Elle a débuté au début des années 1960. Elle a travaillé pour Spirou, Tintin et Pilote. Et d'ailleurs, de Pilote, elle est partie avec les réfusniques Gottlieb et Mandrika, avec qui elle fondera L'Écho des Savanes en 1972 à la recherche d'une BD plus adulte. Même que c'est elle qui a fait la couverture du numéro 1 de L'Écho des Savanes. À l'époque où c'était une revue de BD et pas une meuf à poil en une. Vous croyez quoi?
Des fois, il y en a plusieurs. Hein.
Voilà, adulte, cela voulait dire plus intellectuel. Et L'Écho des Savanes est devenu un truc déshabillé à partir des années 80. Elle quittera assez vite l'aventure pour l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, où apparaîtront ces fameux frustrés. Une génération pourrie, gâtée, par les 30 glorieuses, par l'éducation à l'adolto. Vous savez, Carlos, à l'époque, faisait ses débuts à la télé, on connaissait les dégâts. Mais frustrés par mai 68, qui est parti en couille, le pouvoir de droite, le fait de ne pas être dans un régime social ou communiste, mais d'être quand même petit bourgeois, et le début de la crise. Bref. Ce que je viens de décrire, c'est ni plus ni moins que l'électorat du Nouvel Observateur. Elle remettra ça en 1988 en créant Agrippine, l'adolescente génération cocoon.
C'est bien ça.
Ah oui, mais c'est dire si on n'en est pas sorti et encore. Alors, que dire à relire Les Frustrés? Une critique sociale, soit, mais pas agressive, et surtout l'air du temps du début des années 1970. C'est que l'on ressent en lisant les deux premiers tomes, donc réédition format poche des Frustrés, une BD de Claire Bretuchet. Que dire sinon finalement que c'est un peu frustrant?
Ouais, non, mauvais comme jeu de mots quand même, hein. Baisse de forme.
Pardon, je veux dire une réédition poche soit, mais quand on connaît l'écriture de Bretuchet, une écriture cursive écrite à la main, c'est tout lié, c'est pas en bâtonnet.
Oh, putain, c'est petit, hein.
Eh oui, j'avais prévu le coup, heureusement pour les non-piopes. Tiens, Thomas, prends la loupe.
Putain, c'est petit.
Ouais, mais c'est très drôle, hein, ça a rien perdu.
Oh putain, mais que c'est petit.
Oh Thomas, là t'es lourd. Entame la mangasse plutôt. Oh.
Ouais. Putain, j'ai mal aux yeux là. Bon, c'est juste pour signaler chez Taifu Comics la sortie du dernier tome, le troisième et dernier tome de Seven of Seven, un manga de Yasuhiro Imagawa et Asusa Kunihiro. Oh là là. Voilà, c'est
Non, mais ça m'a fait rire parce que hier je préparais, il y avait les mangas de cul sur Europe 2 Télé. Quand j'ai préparé la prog musicale, j'ai mis ça, c'était absolument pas. Ah bon, on fait le résumé, Thomas.
Ouais, bah en fait, c'est l'histoire d'une petite écolière qui est toute mignonne, qui a des difficultés à l'école et tout, et puis il y a son père qui lui ramène un mystérieux cristal en forme de cœur d'une boutique assez chelou, et en fait, elle le regarde à travers le prisme de la lune, et elle se divise en 7 petites nanas. Parce que je crois que nana en japonais ça veut dire 7.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà, donc elle se transforme en 7 petites nanas qui ont toutes un trait de caractère particulier. Il y a la nana guicheuse, la timide, l'intello, la méchante, la toute mimi, et voilà. Et donc, ça, c'est le troisième tome. La série se clôt la même façon dont elle avait commencé.
C'est
frais,
plutôt court, c'est étonnant, c'est plutôt court, alors que le concept est pas mal du tout finalement.
Ouais, bon, le concept est pas mal du tout. J'ai toujours pas compris pourquoi il l'avait mis dans Shonen. Shonen, rappelons, c'est le manga pour garçons. Donc, effectivement, il y a la nana guicheuse, elle a un peu plus de seins que les autres. Et puis, on voit quand même quelquefois des petites culottes, mais c'est quand même la problématique est pour les filles quand même.
Sabrina, range ce marteau.
tu l'as déjà lu, la manga?
Oui, j'ai déjà lu, oui.
T'es d'accord, c'est pour les filles quand même.
C'est entre les deux en fait. Ah. C'est l'histoire, évidemment, c'est tout mimi, c'est pour plutôt shoujo pour les filles. Et partie petite culotte, les seins en l'air.
Ah non, il n'y a pas de seins en l'air, c'est des décolletés pigeonnants, c'est pas pareil.
allez, là on part dans les détails, c'est pas bon. Donc on vous explique pourquoi
les
on
obus,
est en train.
Les obus, c'est pareil. Hein.
On vous explique pourquoi on y accorde de l'importance, c'est qu'au Japon, je suis un petit peu intello, hein, donc je le fais de manière féminin. La manga est classée par lectorat, c'est-à-dire qu'on a vraiment un lectorat garçon-fille qui est très différencié, mais on a aussi en fonction de l'âge, que cela soit la femme au foyer, pour le retraité masculin qui a perdu sa femme, etc. À chaque fois, c'est très sectorisé.
Et en fonction du statut social aussi, salarié. jurymen, écolier,
ou personne qui travaille sur les docks. C'est vraiment très sectorisé, si ça a plutôt tendance des fois à voler en éclats, quand même c'est assez placé. Donc c'est pour ça qu'en général les collections reprennent les termes japonais, c'est-à-dire shoujo pour filles, shonen pour garçons, zeinen pour adultes, et encore adultes il y en a plein, enfin bon voilà. On mettra des liens notamment vers Wikipédia qui a un excellent article sur le manga qui définit bien tous les genres. Et d'ailleurs, toujours dans le manga, Shiro Détective se classe, lui, directement dans les collections pour garçons. Il n'y a pas d'autre terme. Et c'est pour ça, justement, qu'on y fait une transition. C'est que, tout simplement, c'est beaucoup plus adulte. Je veux dire, c'est plus orienté ado. Excusez-moi, je vais y arriver. Shiro Détective, donc Catastrophe, le troisième tome se tourne autour d'une histoire complexe qui s'appelle Master of the Ring. C'est de Naoki Serizawa. C'est dans la collection Shonen chez Typhoon. Voilà. Bon, alors Shiro, c'est un lycéen apprenti détective. Il veut être le plus grand détective du monde et même plus fort de la galaxie. Ah oui, on se la pète. Hein. Faut dire que jusque-là, il a toujours réussi à résoudre chaque affaire. Grâce à quoi ? Sa déduction ? Non. Son astuce ? Non. Sa perspicacité ? Non. Son instinct ? Au sens primaire, presque. Sa connerie, oui, sa connerie monstrueuse et surtout son amour immodéré pour les femmes d'âge mûr. C'est pour séduire la pauvre Reiko Shiina qui n'avait pas besoin de lui pour couler son agence qui s'est mis dans la tête de s'improviser à détective privé et d'être son assistant. Rien que pour le draguer, tu vois, enfin bon. Mais faut dire que le beau gosse a aussi des muscles. Et comme quatre gangs se sont montés à un défi de baston de rue sous le nom de Master of the Ring, avec en prenant chacun l'identité d'une carte à jouer, un jeu de 52 cartes, hein, ça fait 13 cons par gang. Et parce qu'il y a des filles, évidemment. Les quatre clans tentent chacun de le recruter en le soudoyant avec des photos de profs nus. Bon. Viens ici, mon grand con. Il y a des photos de femmes nues. Voilà, enfin bon. Et il se trouve que par là même, en y participant, il pourrait peut-être retrouver une personne disparue. Peut-être. C'est une parodie à pleurer de rire de la vague détective Conan, c'est-à-dire des lycéens Yashin-Eishi, je crois aussi. Il y a toute une vague. Hein, au Japon, détective Conan est l'une des séries qui se vend le plus encore. Elle a bien 8 ans, je crois, cette série, et ça continue à marcher. Il y a les séries télé, les films télé, enfin, c'est monstrueux. Parce que, voilà, ça joue en partie sur l'intelligence du lecteur, et c'est ça qui fait que ça marche pas mal. Et ben là, absolument pas, on est passif devant autant de conneries. Shiro Détective Catastrophe, le troisième enquête, troisième tome, vient de sortir dans la collection Shonen chez Taifu Comics, c'est de Naoki Serizawa. Radio FMR, 12h19 et 54 secondes et 978 millième sur l'horloge atomique de la radio, et Thomas va enchaîner toujours dans la bande dessinée.
Ouais, parce que tu parlais de manga avec des conneries dedans, ben, c'est une bonne transition pour la mienne.
Et je sais, c'est pour ça.
D'accord.
Puisque là, on reste vraiment dans la manga pour garçons.
Oui, pour garçons qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des héros intelligents.
Donc, oh
donc il s'agit d'Even Eleven, c'est une nouvelle série sur le foot de Hideki Owada. Alors,
le paradis des 11.
Voilà. En fait, c'est un peu comme Olivier Tom pour les connaisseurs, sauf qu'ici, on s'embarrasse pas d'un pseudo-contexte de foot crédible, pas d'entraîneur venu du Brésil et tout, là, on a rien à foutre. Et c'est l'histoire de deux amis passionnés de foot, dont l'un désire entrer dans les ordres, et qui veulent intégrer le club de foot de leur lycée, sauf qu'il y a un hic. C'est qu'ils habitent sur une île assez spéciale et le foot a été interdit depuis 50 ans parce qu'il y a un match qui s'est très très mal passé il y a très longtemps.
Laisse-moi deviner, entre Pépone et Don Camillo.
Si tu veux, ouais. Non, en fait, c'est interdit de jouer au foot sur cette île parce que parce que pour sortir du sempiternel 0-0 qui clôturait chaque match de chaque année de chaque tribu, en fait, il y a un mec qui a dit tiens, si je marque un but, et puis là, en trouvant les filets adverses, il a dégommé la statue protectrice à la con du coin, et du coup il y a eu un tremblement de terre et les villageois pensent que c'est à cause de ça, donc ils ont interdit le foot. Et Bon, vous l'aurez compris, cette manga, elle joue pas la carte de la finesse comme pouvait le faire Olive et Tom. Non, si, c'était fin quand même comme manga.
Bah,
la taille des terrains était réaliste. Ah, non, bon, alors.
Oui, on va faire clôturer les prolongations par un triple salto arrière élancé à partir de 50 mètres de distance. Et tout cela sans un gramme de sueur et en marquant en pleine lucarne pile au dernier millième avec arbitrage vidéo, etc. C'était gentil. Ouais. Mais c'était gentil quand même.
Bah, attends, les joueurs qui gagnaient 1 contre 11. Ah, non, non plus. Bah, un seul corner en compétition.
Ah, si, si, ça existe. 1 contre 11, ça existe.
Quand Zidane entre dans le terrain.
Oui.
Ah, d'accord. Bon. Bon, faut dire que les héros de cette nouvelle manga, Even Eleven, sont pas des lumières. Les gags sont hilarants. Alors, à l'image de la couve. Alors, l'image, alors la couve, c'est un mec qui se prend un ballon dans la gueule. T'as le visage complètement déformé. Et c'est. T'as des gags, genre, il y a un mec qui veut arrêter un voleur dans la rue, il essaie de lui shooter un ballon dessus, sauf qu'il y a un gamin qui passe et boum, le gamin, au revoir.
C'est pire que Shaolin Soccer, quoi.
Ah oui, non, mais Shaolin Soccer, à côté, c'est un documentaire. Hein. Voilà, donc, c'est plein de gags super cons, des crétineries absolues, mais c'est vraiment poilant à lire. Voilà, c'est même pour les amateurs, les non-amateurs de foot, précipitez-vous sur cette série, ça casse pas des briques. Si, ça casse des briques, justement, avec des ballons. Voilà, il s'agit de Even Eleven. C'est chez Taifu Comics et c'est une manga de Hideki Owada.
On va entamer tout de suite la partie cinéma. Et alors, c'est un morceau qu'on a déjà passé, si je ne me souviens bien, le 13 août dernier. Oh mince, encore le chiffre 13. Oh. On le préannonce quand même. Journey's End, c'est un remix d'un des morceaux de Final Fantasy X qu'on a chopé sur Overclocked. Supplément Week-end. Donc, sur Radio Éphémère, il est 12h28, pas de pub encore une fois, donc tant pis, il n'y en aura pas. Et moi je vous dis pas, j'ai une pêche monstrueuse aujourd'hui, c'est une catastrophe pour réaliser. Thomas, si je mets cette musique, c'est parce que c'est complètement Zarbi, le film dont tu vas parler maintenant.
Ah non, mais moi j'ai parlé de cinéma, je veux le jingle comme du sport lavé la semaine dernière. Hein.
Oh mince.
Tu sais le jingle là, qui fait ta-ta-ta-ta.
D'accord, ok. Ça s'appelle, mesdames et messieurs, une remise en place, ok. Hein, on est en train de s'expliquer entre nous, voilà. Voilà, tu veux ton jingle, tu vas l'avoir.
Ouais. Ça tue!
Ouais! Il manquait plus que le lion qui rugisse, c'est
pas... En fait, c'est l'intro du morceau Puce DI de Leibar, c'est la reprise de Life is Life. Je vous montrerai le clip.
Life is Life.
Thomas, donc.
Bon, aujourd'hui.
Spécial animation, ouais, quand même, pour commencer.
Spécial cinéma d'animation, mais pas en dessin.
Hey.
Avec la sortie de Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou. Ça fait 3 semaines, je crois, qu'il est sorti, mais c'est pas grave, il est encore à l'affiche. Vous pouvez encore y amener vos gamins et vos. Des gens de votre âge, hein. Ça dépend quel âge vous avez. Bon, c'est pour tout le monde. En fait, c'est un film de Nick Park et Steve Box. Pourquoi qu'est-ce que tu ris? Pourquoi tu ris?
Non, rien.
Tu te moques de mon lancement de chronique, c'est ça?
Oui.
Bon, d'accord.
Bon, alors voilà, c'est Gromit, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est trois petits courts-métrages du studio Aardman. C'est un studio anglais. Et là,
on a tendance à oublier que c'est des courts-métrages.
Ouais, il n'y en a pas eu tellement que ça, en plus.
Ah ouais.
Et c'est leur deuxième.
Sans compter un ultra court comme la pub pour la Kangoo.
Oui,
oui. Ah, c'est génial.
Ah, bon, pas de pub.
Mais c'est pas les studios Aardman, ça a été réalisé en Belgique.
Ah, ils ont filé les
ah, je ne sais pas.
Ah.
Continue ton texte.
Il s'agit de leur deuxième long métrage après Chicken Run, et qui avait déjà été produit au sein de la DreamWorks. Donc le pitch, il s'agit de l'inventeur Wallace et son assistant chien Gromit, super intelligent, qui débarrasse les habitants de leur bourgade de petits lapins encombrants. Car ils sont encombrants parce qu'il y a la fête des légumes qui approche, et c'est un concours qui vise à récompenser le plus gros légume. Et son organisatrice a un peu tapé dans l'œil de Wallace. Mais l'esprit de compétition des participants va être troublé par l'arrivée d'un mystérieux lapin géant affamé qui va donner beaucoup de boulot à nos deux héros. Voilà. Donc il s'agit d'un film d'animation en pâte à modeler. C'est leur marque de fabrique, la pâte à modeler. C'est une technique artisanale qui va...
Enfin, si on est pro, on dit plasticine.
De la plasticine, parce qu'il s'agit d'une plasticine spéciale développée pour le studio, justement. Et ouais, donc c'est un film qui a mis 5 ans à se faire. Parce qu'il faut placer la petite figurine en plasticine, enregistrer une image à la caméra, la bouger un petit peu, enregistrer une image, etc.
C'est pas seulement la bouger, c'est carrément la modifier dans tous les sens. Il y a
les expressions des personnages, etc. Et pour le tournage, en fait, c'est un tournage qui s'est déroulé sur plusieurs plateaux en même temps. Et ils enregistraient en à peu près 10 secondes par jour. Tu te rends pas compte, mais 10 secondes par jour, c'est énorme.
C'est rien que d'y penser, le temps de travail, c'est monstrueux. Quoi.
Bon, d'accord, pour le long métrage, il y a un peu de triche parce qu'ils ont fait appel à quelques effets numériques, notamment pour tout ce qui est rendu atmosphérique, comme le brouillard ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est un truc qu'ils pouvaient pas. Mais ils disaient que, j'ai vu sur le net, dans une interview, que le créateur, au début, quand il faisait des courts métrages, il représenter également le brouillard et tous les effets atmosphériques par des espèces de petits nuages de coton. Ça pouvait être marrant aussi. Alors, autant Chicken Run rendait hommage à la Grande Évasion et les films de guerre des années c'était quoi, les années 60
oui, c'est les années 60, ouais. Oui, Steve McQueen.
Voilà, autant celui-ci rappelle le film de monstres des années 30 et 40. C'est les loups-garous, King Kong. Alors imaginez, à la place de King Kong, à la place d'un gorille géant, vous imaginez un lapin. Et vous pouvez vous imaginer beaucoup de situations comiques qui en découlent, hein. Je vous laisse imaginer dans votre coin. Alors au final, qu'est-ce qu'on a? On a un film divertissant pour ma part, mais il a les qualités et les défauts de Chicken Run. C'est-à-dire que c'est drôle, frais, surprenant, mais au début. Et après, bah, qui dit long métrage dit ramasser un peu plus de gens pour rentrer dans ses frais. Et donc faire un scénario accessible pour tout le monde, donc un peu moins inventif et un peu plus mainstream, on va dire. Bon, bon, là je fais la film bouche, c'est un excellent film. Sabrina, à ton avis?
Ah, moi j'ai adoré, moi.
Merci.
Et... bon, d'accord, ok. Au moins, ça, ça a le mérite d'être objectif, mais oui. On ne sait pas pourquoi.
Voilà, c'est un excellent film et super frais. Et puis le climax final, c'est vraiment à se poiler de rire.
Non, j'ai adoré surtout c'était le, des, surtout les références à différents films, justement, comme tu disais, les années 40, les séries B, fantastiques, les horreurs, etc. Et tout en faisant le comique, là, des petits lapins qui n'a partout. Et un petit lapin qui fait un petit coucou.
Oui, ah oui, le
jeu. Ouais, tous ces petits gimmicks de référence, soit aux spectateurs d'ailleurs, il y en a aussi, mais dans la manière dont sont animés les personnages, puisque des fois il y a des traces de doigts, ils les font exprès.
Oui, tout ouais. À fait, tout à fait. Quand, on voit, quand il y a les gros plans, on voit bien la grosse trace du pouce.
Oui, l'empreinte. Et ne ratez pas le générique de fin, et les petits lapins qui font des ennemis spéciales.
Ah oui, c'est super. Voilà. Il y a aussi une mention, excuse-moi Thomas. Oui. Il y a une mention aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est une course poursuite à la Starsky & Hutch.
Ah, d'accord, ok, Zebra 3, bon.
Et oui, donc parmi les doubleuses, il y a Helena Bonham Carter qui disait que pour elle, Gromit, le petit chien, était le meilleur acteur du monde. Superbe transition pour l'autre film d'animation qui est Les Noces Funèbres de Tim Burton, dans laquelle Helena Bonham Carter fait également la voix. Et oui, elle est l'épouse de Tim Burton aussi à la ville, ça aide.
Ça s'appelle de la promotion. Non, pardon.
Bon, petite coupure musicale un peu. Juste 10 secondes pour laisser respirer là.
Ok.
Donc, Les Noces Funèbres, sorti il y a 2 semaines. Tu vois, ça fait compte à rebours. On va arriver à l'heure. Donc, il s'agit du nouveau film d'animation de Tim Burton, cette fois aidé par Mike Johnson. Et bon, Tim Burton, il s'était déjà essayé au film d'animation avec L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et cette fois-ci, on a les doublages.
Tu sais que Tim Burton, il a débuté dans l'animation.
Ouais, c'est sur quel film?
Rock, c'est Rookie.
Oui. Et il disait que c'était rarement fait chier, il était tombé en pleine déprime parce qu'on l'avait chargé de faire tous les plans mignons avec les petits
oh,
animaux.
Le joli petit renard, comme il est mignon.
Et alors, donc on a pour le doublage, on a un casting de choix, on a Johnny Depp, on a Helena Bonham Carter, Michael Goff, alors je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, c'est le mec qui joue Alfred dans Batman. On a Christopher Lee, on a Emily Watson, qu'on avait vu notamment chez Lars von Trier.
Attends, Christopher Lee, quel âge il a ce type? Parce que...
il doit avoir 75 ans au moins.
Plus près des 80.
Ouais.
C'est effarant, hein. C'est effarant.
Et il y a aussi Albert Finney, qu'on avait vu dans Big Fish. Qu'il a fait appel à sa petite troupe habituelle. Et l'histoire est inspirée d'un conte du folklore russe. Au 19e siècle, un jeune homme est prisonnier d'un mariage arrangé et ne sachant pas comment s'y prendre avec sa promise parce qu'il est un peu maladroit sur les bords. En fait, il part dans les bois pour s'entraîner, pour faire sa déclaration, passer la bague au doigt. Voilà. Mais il passe la bague au doigt d'un bout de bois et en fait, c'est pas un bout de bois, c'est un cadavre. Et il va se retrouver plongé dans l'au-delà car le cadavre va s'animer subitement et. En fait, il va aller à la rencontre de sa belle famille accidentelle, au royaume des morts. Donc, ce qu'il y a de rigolo dans ce film, c'est que autant le monde des vivants, il est couvert de toiles d'araignée, il est poussiéreux, il est quasiment en noir et blanc monochrome, et autant le monde des morts, c'est yeah, méga teuf, super coloré.
C'est un peu la suite de Monsieur Jack, quoi.
C'est ça, voilà, exactement. Et cette fois, au lieu de pâte de plasticine, c'est la technique d'animation, c'est une technique avec des marionnettes. Les mécanismes à l'intérieur de marionnettes. Alors, c'est tellement fluide et réaliste, pas d'à-coup et tout, je me suis même demandé, même Sabrina aussi, si c'était pas fait quelques passages en numérique. Parce que franchement, on voit rien. On oublie totalement. Bon, il y a quelques plans où justement, on voit des petits à-coups pour garder un petit côté artisanal, mais vraiment, il y a des scènes où ils jouent au piano. C'est à tomber, je vous encourage à aller le voir rien que pour ça. Qu'est-ce qu'on a ? On a aussi la qualité de lumière, parce que bon, Tim Burton, on le connaît, c'est quelqu'un qui est passionné par l'expressionnisme très
allemand,
fortement marqué, voilà, par tout ça. Et on a des atmosphères assez incroyables, notamment des quelques plans de fin. Je vais pas spoiler, non, c'est assez frustrant. On a Sabrina, ton petit avis ?
Tu as tout dit.
Ouais.
D'accord. Non, mais là, il essaie de reprendre sa respiration.
Voilà, oui,
non,
d'accord.
Le petit bémol à mettre, c'est que c'est un tantinet un peu court quand même. C'est un petit peu court, entre 1h10 et 1h15, il me semble.
Ouais, mais moi, ça suffit, je pense. Ouais. Ça suffit. Mmh. Parce que justement, vu que c'est sur, basé sur un compte, pas la peine d'en faire 2 heures, quoi. Sur... Voilà. Par rapport à Monsieur Jack, bon, on va dire que c'est le même univers. Un peu plus macabre, je dirais, sachant qu'on joue sur la fibre sensible, sur le mariage, sur le serment.
Sensible entre vous deux, non, pardon, désolé, c'est en l'antenne.
Bravo!
Là, je vais me faire frapper.
Non, mais en fait, on retrouve le penchant de Tim Burton pour tout ce qui est macabre. On a des personnages du Royaume des Morts, il ne reste plus que la tête. Il y en a d'autres qui ont été. Ils sont morts parce qu'on les a coupés en deux. Donc, hop.
J'admire beaucoup dans Tim Burton, justement, c'est de banaliser la mort. Mmh.
C'est la question que j'aurais aimé poser justement à la personne qui a l'habitude de bosser avec des gamins et qui a l'habitude de la pédagogie des gamins. C'est est-ce que, à partir de quel âge, toi, tu penses qu'on peut les emmener voir ça?
Moi, je suis sûre que. Là, j'ai travaillé avec des maternelles, donc on va dire de 3 ans jusqu'à 6 ans. Ensuite, avec de 6 ans jusqu'à 10 ans, j'ai travaillé aussi avec des pré-ados. Je dirais que même pour les 8 ans, je trouvais que c'est assez choquant. Donc, on va dire, je dirais à partir de 10 ans.
D'accord, voilà. Ok. Thomas, oui. Tu as prévu de compléter encore ou...
Non, c'est bon. C'était pour justifier un peu pourquoi 10 ans, mais voilà.
Ok.
Voilà. Bon, ben, c'est un excellent film qu'on vous conseille également. Cible un peu plus âgée, on va dire que voilà, c'est Gromit.
Parler d'un film qu'on ne s'attendait absolument pas à voir en France. À vrai dire, on a emprunté le coffret DVD qui est sorti donc dans son pays d'origine. Un coffret DVD qui est assez superbe, hein, avec les trois DVD, le monde bleu, le monde jaune, enfin, littéralement superbe. Et voilà, il est sorti au cinéma. Alors du coup, on était un peu avancé pour le chroniquer. Quack.
Ouais, on a eu un problème technique pendant le visionnage, mais bon, ça nous regarde. Donc on va vous parler d'un film qui s'appelle Cachern, qui est sorti mercredi dernier en salle au cinéma. Je suis incapable de vous dire dans quel cinéma exactement, je sais qu'il est sorti à Toulouse.
Sortie technique,
ouais,
encore
sortie
une fois.
Sortie technique.
Parce que quand même, il est très particulier.
Ouais.
Voilà.
Donc c'est un film de Kazuo Kikiria, qui est réalisateur de clips à la base.
Mais attention, donc rien qu'à la prononciation, déjà vous vous dites, bon, alors il est pas français, il est pas américain, donc c'est un japonais, effectivement,
ouais.
Et c'est un réalisateur de clips de J-pop. La pop japonaise, c'est comment dire, vous voyez la Starac, et ben c'est encore plus flashy.
Moi je dirais plutôt Priscilla, non?
Non, c'est pire. Hein.
Ah,
non, la J-pop, c'est vraiment.
Priscilla, encore, il n'en est pas loin, mais J-pop, c'est vraiment. C'est plus technoïde, hein. Ça y va beaucoup plus sec.
Alors moi j'ai rien à dire sur le casting parce que je les connais pas, c'est juste que j'ai remarqué qu'il y avait un acteur fétiche de Kitano dedans qui est Suzumu Terajima. Alors j'ai mal prononcé, mais c'est juste une manière d'étaler ma science. Voilà. Donc de quoi ça parle ce truc? Dans un futur en guerre, il y a un jeune soldat qui tombe au front. Son père, grand scientifique, étudie un remède miracle pour soigner sa femme bientôt aveugle et en créant des bassins tout rouges. Tu vois, il y a des bassins et puis il y a des lots tout rouges dedans. Jusqu'au moment où se produit l'incroyable. Des ressuscités sortent des bassins tout rouges, mais ils sont abattus par dizaines par des soldats, parce que bon, les bons vivants, ça va. Hein. Et alors ils deviennent pas gentils et ils menacent de détruire le monde des humains normaux. Enfin, les humains normaux, pas les néo-sapiens, c'est comme ils se qualifient eux-mêmes. Le scientifique s'empresse alors de plonger le corps de son fils dans les bacs rouges à son tour, afin de le ressusciter lui aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, après tout, il y a des mecs qui sont ressuscités, bah lui, il va faire pareil avec son fils. Voilà. Et là, tada, un nouveau super-héros surgit. Hein, vous avez manqué un épisode. Ouais. Ben en fait, vous avez bien compris, au début c'est un monde post-apocalyptique, enfin non, apocalyptique, puisque
apocalyptique,
ça
oui,
se passe encore.
Puisqu'en fait, la Terre est divisée vraiment entre deux puissances, une puissance qui semble être communiste, dictatoriale, ouais, d'un ouais. côté, style la Corée du Nord a gagné sur un hémisphère, et de l'autre côté, on ne sait pas, mais ça semble être aussi rigolo, quoi.
Voilà, donc c'est ouais. un film super dark et tout, et puis là, il y a, ben, y a le héros qui ressuscite. Et là, on est. C'est Bioman! Youhou!
Non, tu vaches.
Tu crois pas?
Non, je trouve pas tant que ça finalement parce qu'il
oh, y a. Si, quand même!
Non, il y a une réelle psychologie quoi derrière et.
Oui, au début.
Oh, à la fin aussi, hein.
Ah non, oui, au début à la fin, voilà, c'est ça. Mais par contre, il y a un plan qui fait la jonction entre les entre le côté psychologique et le côté, on va dire, baston neuneux. C'est attention, on va te fabriquer une armure pour optimiser tes pouvoirs. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand il ressuscite, il est super fort. Et là, il y a un gros plan sur son casque. Un casque tout rond avec des pointes. Mais les pointes, pas casque à pointe, hein, c'est les pointes.
Ça ressemble à Goldorak aussi.
Voilà, un peu. C'est, ouais, c'est le casque de Alcor. En fait.
Oui, exact.
Voilà, donc un mec qui s'est déguisé en Alcor pour aller buter des morts vivants. moi, honnêtement, je suis passé à côté de l'histoire. Hein. J'ai trouvé. Enfin, l'histoire, elle est complètement noyée par le. C'est surtravaillé, l'imagerie clipesque à mort.
C'est ça le problème, c'est qu'on est littéralement happé par l'univers visuel parce qu'il y a des réminiscences de The Wall, de Pink Floyd, il y a de dessins animés.
Ouais,
tout ça.
Des dessins animés,
effarant,
y a des...
ouais. C'est effarant au niveau graphique, c'est une claque visuelle monstrueuse et on en oublie l'histoire. Or, c'est ça le problème, c'est que l'histoire, elle est loin d'être creuse. Elle est assez alambiquée et à partir de là, on est paumé.
Ouais, c'est clair.
Donc, c'est vraiment le reproche principal.
Quoi, ouais, c'est dommage parce qu'à partir du moment où le héros il enfile son costume de Bioman, moi je dirais les combats sont filmés avec les pieds. Franchement, il n'y a aucune chorégraphie. C'est monté, mais vas-y comme je te pousse. On voit 6 images d'un côté, le mec il commence à porter son coup, cut, et le plan d'après, ben, l'autre il est à terre avec une épée dans le bide. Ouais, cool. Et en fait, on dirait un film de pote vu sur internet, tu sais, au rayon héros en collant filmé en H8 là. Avec les mecs qui sont allés tourner dans leur hall d'immeuble et puis ouais, on fait des bastons, on filme à l'envers et puis on monte super code pour faire croire à la supercherie. Non, c'est super mal chorégraphié, il y en a pas. Voilà. Bon, c'est à voir pour les réalisateurs en panne visuelle.
Peut-être expliquer aussi que Cashian, c'est l'adaptation en fait d'une série de dessins animés qui a été tournée au début des années 70 au Japon. Et l'histoire est beaucoup plus simple et s'adresse à des gamins. C'est un peu dans l'histoire un peu d'Astro le petit robot. Et d'ailleurs, c'est dans la ligne graphique de Tezuka. C'est-à-dire, c'est vraiment encore les personnages qui sont ronds. Ce que je disais l'autre jour à propos de Metropolis, c'était un personnage rond, etc. On n'en est pas encore à la ligne carrée très hachurée du manga avec des traits très secs. Et donc, c'est un futur qui est beaucoup plus brillant, qui est beaucoup plus joyeux, etc. Tandis que là, on est face à plusieurs périls entre à la fois les humains d'un côté et les néo-humains, entre donc cette espèce de d'état totalitaire que finalement. On va prendre inconsciemment fait pour, même si on est contre, etc. Face à d'autres périls dans tous les sens, c'est ça le problème, c'est que ils ont réussi à adapter un truc sur lequel des Japonais qui ont maintenant 30, 35 ans, 40 ans ont découvert quand ils étaient petits et vraiment à transposer à un univers qui est très récent.
Voilà. Au final, même la narration, elle aide pas franchement parce que moi je trouve que c'est plutôt une somme de clips montés bout à bout, un peu comme pouvait l'être le film des Daft Punk Interstellar. Ça c'est mon avis. Tu trouves qui c'est qui est d'accord? Lève le main. Non, personne.
Moi je suis absolument pas contre. C'est vrai que c'est d'abord il y a la programmation musicale qui est vraiment tripante et c'est vrai que là-dessus. Je suis d'accord.
Voilà, donc il s'agit de Cashian, qui est sorti au cinéma dans nos contrées à Toulouse mercredi dernier.
h 46 minutes 46 secondes et 977 millièmes sur l'horloge atomique de la radio. N'oubliez pas que ce soir on change d'heure pendant la nuit et que donc FMR arrêtera ses programmes à 6h du matin. On gagne une heure. Et oui. Et du sport n'est toujours pas arrivé, donc supplément week-end, je ne sais pas s'il y aura une section télévisée. Mais bon, vu le fond sonore. Et qu'on change de style.
Ouais, on peut dire ça. Donc ça, maintenant, on n'est plus dans le cinéma, on est encore dans le cinéma, mais on est dans la rubrique DVD. Parce que le DVD, en plus, c'est pas un DVD qui sort chez nous, c'est un DVD disponible en import japonais. Ouais, parce qu'en fait, on était dans l'animation, Cash Chien faisait un peu penser aux jeux vidéo, donc on s'est dit, bah tiens, il y a un DVD super bien qui sort au Japon et que vous pouvez même vous procurer en import. Il s'agit de Final Fantasy VII Advent Children, et vous aurez reconnu, c'est la suite du jeu Final Fantasy VII sorti chez nous en 97, un jeu de Squaresoft. Alors le film est réalisé par Tetsuya Nomura.
Et... attends, juste une chose, il faut signaler que c'était, je crois, le premier Final Fantasy qui était sorti sur PS2.
Mais je vais y venir.
Pardon.
Non, c'est pas grave. Donc le scénario du jeu, on va rappeler un petit peu pour ceux qui jouent pas. Hein, il s'agit d'un monde parallèle. Dans un monde parallèle, l'énergie vitale de la planète est exploitée par les usines de la Shinra. Une firme. Le joueur incarne plusieurs personnages d'un groupe de terroristes, et donc il y a le mec baraque qui est un peu bourrin, il y a le héros qui a un passé trouble et tout, visant à faire sauter les réacteurs de la Shinra pour sauvegarder le patrimoine de la Terre hérité d'une race de mecs super forts qui s'appelait les Anciens. Alors ce jeu, en fait, il constitue une date, hein. Franchement, parce que c'est produit par Squaresoft, c'est une firme spécialisée dans les jeux d'aventure, hein. On leur doit Secret of Mana, Mystic Quest, pour parler des plus anciens, et donc de la série super célèbre Final Fantasy. Il y en a eu 12, je crois, épisodes pour l'instant.
Et tous les à côté. Y en a un qui est sorti sur Game Boy Advance, il y en a tout plein.
Ouais. Et donc ce Final Fantasy VII, c'était le premier jeu de la série à sortir sur la PlayStation 1, et c'est aussi le premier jeu à être sorti en France. Voilà, donc il est notamment super célèbre partout dans le monde parce que c'est le premier jeu à être sorti sur cette console qui avait des séquences cinématiques véritablement à tomber, super beau visuellement. Et puis en France, on a un petit. C'était le premier jeu qu'on voyait qui n'était pas importé du Japon. Le scénario était brillant, vraiment, le scénario complexe à mort.
Mais Final Fantasy, c'est un peu dans la lignée, je dirais, des Ultima, dans le style de quête, etc. Et dans le côté extrêmement vaste des univers. C'est étonnant sur la scénarisation.
Ouais, tu t'es précipité dans un univers, mais tu t'immerges totalement. Hein.
À chaque fois, c'est une histoire différente.
Oui, une histoire différente.
L'univers et tout le reste.
Voilà, c'est totalement indépendant. Et là, dans ce jeu-là, le numéro 7, c'était un mélange d'heroic fantasy pur avec tout le bestiaire réalité de ça, et avec remixé avec des décors cyberpunk. C'est ça qui donnait son originalité à ce jeu. Alors, pour parler de l'aventure cinéma de Square, en fait, c'est une filiale de Squaresoft qui s'appelle Square Enix, qui s'était déjà essayé au long métrage avec Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Bouh, les trahisons. Ah, c'est une daube infâme. Ouais, ça a été vécu comme trahison par les fans. Bon, il faut dire que le scénario avait été remanié par l'auteur d'Apollo 13. Ouais, et le film jouait en fait sur le photoréalisme. Et pas du tout sur l'univers et tout. Je veux bien que les histoires soient toutes indépendantes, mais là c'était vraiment trop indépendant parce qu'on retrouvait absolument rien de tout ce qui faisait le charme des jeux. On avait abandonné les éléments de magie, les personnages étaient super inconsistants, super stéréotypés, on avait des ressources d'aliens, le mec qui fait des blagues, le black, la fille un peu amoureuse d'un autre mec, enfin bon. Voilà. Et cette fois, le tir a été corrigé. Et comment ? Alors là, franchement, ça fait mouche, mais putain, ça fait mouche là. Le film se passe 2 ans après le dénouement du jeu. Et là, c'est la claque. Alors, le pitch, c'est bon, il est très simple. Après avoir vaincu Sephiroth, qui était le méchant du jeu, et ses folies des grandeurs, Cloud, donc c'est le héros, s'occupe de gamins de la rue. Mais l'arrivée inopinée de 3 étrangers habillés super vachement cool. Là, pour se plaire un peu le fétichisme des japonais, ça va changer la donne car ils veulent entrer en possession de ce qui reste de leur mère Genova. Alors ça c'est un peu récapitulé au début du film. Alors, si vous avez rien compris, c'est normal parce que ça suit directement le jeu. Il y a un petit récapitulatif au début pour dire regardez notre film quand même, mais il faut quand même avouer c'est assez obscur. Et c'est pour ça qu'ils ont pas tout axé sur le scénario, ils ont surtout axé le film sur les bastons, voilà. On a de nombreuses références au jeu. On a, à un moment donné, il y a une fille qui tabasse un mec. Et il y a la musique. Tu sais que dans le jeu, en fait, à chaque fois qu'il y a un combat qui est remporté, t'as une petite musique qui fait ta-da-da-da-ta-ta-ta-ta-da. Et là, t'as le décompte des points, des fioles que t'as ramassées et tout. Et là, t'as la fille qui est ouais, j'ai gagné. Et là, t'entends. Et en fait, c'était le méchant qui était pas mort. Et oui, allô, c'était sa sonnerie. T'as plein de petites allusions comme ça qui font super plaisir. Et alors, les combats, tu peux oublier Matrix 3, pour moi qui était la quintessence des combats en apesanteur, avec un peu comme super, des super-héros, tu vois. Et là, c'est pas du tout le, enfin, c'est, ça enterre Matrix, quoi. C'est, t'as les mecs, ils sont pas tributaires des lois de l'apesanteur, ils ont plus des câbles dans le dos. Non. Là, en plus, la caméra est super agile, super dynamique et tout ce que tu veux. Là, y a pas de problème. Et, tout ce qu'on peut dire aussi, c'est que ils ont pris les personnages du jeu, et ils les ont fait se défourailler la gueule dans un film. Voilà. Alors, je sais pas, Xavier, si tu vois un peu ce que ça veut dire, c'est.
Bah, écoute, non. Je vais mettre un. Chose et point. J'ai fait le mec qui s'y connaît, etc. Mais c'est vrai que cet été, je me suis gavé de Game Zone, là, sur Game One. Et ouais. Je salue d'ailleurs encore une fois Gollum et Gia. Mais, je dois dire une chose, entre toi et moi, hein, je ne connais pas, je n'ai joué à aucun Final Fantasy.
Ah! C'est comme si tu prenais à la place, Resident Evil, tiens.
Je connais pas non plus, ça me faisait trop peur.
Street Fighter. Ah non, pardon, merde, mauvais exemple, désolé Jean-Claude. Doom.
En général, quand je vais au cinéma, je garde mon cerveau avec moi. T'as rien de plus poétique?
Je sais pas, les Sims.
Ah, je suis passé à côté.
Eh merde, bon, Tetris, tu connais Tetris quand même?
Alors en fait, Final Fantasy, c'est une baston de cubes.
Mais merde !
Bon, excusez-moi. Donc, je viens de vexer Thomas, effectivement. Je vais m'excuser et je vais essayer de le rattraper. Donc, j'ai heureusement en exclu la bande-son du nouveau film de Roberto Rodriguez. vois, Thomas, tu peux me pardonner quand même. J'ai réussi à trouver une belle excuse. Et en plus, t'as trouvé le casting, donc ça tombe
bien. Ouais. Alors, c'était l'extrait de la bande originale de Tetris, le film de Robert Rodriguez, avec Jean-Claude Van Damme dans le rôle du Z orange, Christophe Lambert dans le rôle du L jaune et Rocco Siffredi dans le rôle de la grande barre rouge. Ouais. Musique et réalisation par le mec qui a fait Sin City quand même.
Bon. Ouais, bon, ok. Bon. Bien rebondi. Bon, on va quand même annoncer.
Attends.
On va quand même annoncer quand même. Oui, vas-y.
Je finis quand même ma chronique sur Final Fantasy VII.
Ouais.
Je voulais juste ajouter. Bon, le film est à tomber, c'est une claque. Pour les spécialistes, Square avait déjà fait un jeu de baston. Enfin, il avait immergé les personnages du jeu dans le monde de la baston. Il s'agissait de Ergize. C'était un jeu qui était sorti sur PlayStation 1. Et je me retourne vers Sabrina parce que je sais que tu rends pas mal à Final Fantasy VII en ce moment. Qu'as-tu pensé du film? Puisque toi, tu as commencé le jeu, mais tu n'as pas fini le jeu. Alors, t'as loupé des trucs.
Attends. Rapproche-toi du micro, là. Ah, mais il marche plus. Je ne sais pas pourquoi. Attends. L'autre, peut-être, vas-y.
J'ai loupé des choses. Au revoir.
Oui, vas-y. Non,
c'est bon, d'un temps.
C'est bon, vous m'attendez là?
Oui, je me suis trompé de potard.
C'est malin. Donc, je disais, oui, j'ai loupé pas mal de choses. Mais bon, j'ai quand même réussi à suffisamment avancer pour comprendre certaines choses, surtout sur Genova et compagnie. Et donc, c'est vrai que quand j'ai commencé à voir le film l'autre soir, j'ai un petit peu paumé. Mais aïe. C'est pas grave. Non, j'ai quand même réussi. Je suis allée au-delà de ce que j'avais pas suivi. Et puis graphiquement, c'est très beau. Voilà. Après.
Et tu vois. Que,
après, par contre, j'ai un truc, un bémol à dire, c'est que l'histoire. C'est vrai qu'il faut vraiment connaître l'univers de FF7 parce que sinon, on est paumé dès le départ. Voilà, c'est tout.
D'accord. Et
oui, vas-y.
Xavier, tu vois, tu voulais pas de rubrique jeux vidéo dans l'émission, mais ça peut être un concept intéressant, parce qu'on peut faire venir des gens qui rament dans les jeux. Et
ça fait une vieille histoire quand même, ça fait un an, hein, celle-là.
Oui, mais on peut inviter des gens qui rament dans les jeux à expliquer. Oh, c'est
moi,
trop
j'aimerais
dur.
Qu'on me débloque mon jeu, moi.
Bon, je vais t'aider, c'est pas grave.
Ça fait 6 mois que je rame sur le même point. Là.
Je tiens à signaler, Duspan n'est pas là parce qu'il est de mariage, donc je me suis trompé effectivement, mais c'est la première fois où on va pouvoir passer le top version originale. Attention! Avec la voix de fille, voilà, que j'avais soigneusement gommé. Parce que d'habitude, vous avez l'autre top, celui... Tip.
Ah ouais, ouais. Pour pas que ça fasse. Ouais, donc série anglaise, avec le mec qui passe dans le second plan du 13ème épisode. C'était du sport.
Et derrière, t'entends, ouais, effectivement, oui, et puis je suis en train de causer, et puis tout d'un coup, voilà. Enfin bon, c'est assez pénible. C'est vrai que là-dessus, donc, c'est un univers un peu spécial, et en plus, c'est en import, mais je crois qu'il était question d'une diffusion à Paris dans une salle, vraiment pour les accros de jeux vidéo. Enfin.
Oui, donc c'est un film qui est sorti directement en DVD, mais on sait qu'il y a quelques copies en pellicule qui existent.
Avec donc un sous-titrage.
Ouais.
Voilà. Ça s'appelle encore une fois de plus une sortie technique. La rubrique télévision est en live complet parce qu'effectivement j'ai complètement oublié et on va quand même tenter de la faire. Juste pour dire, donc jeudi prochain, si je ne me trompe, sur MTV. Allez, l'an dernier, on avait entendu ça. Et il s'agit des European Music Awards qui sont, je dirais, un peu moins foutoirs que la version Video Music Awards qui sont faites aux États-Unis.
Non, ça c'est pas les awards, ça c'est Gwen Stefani qui vient de passer.
Oui, parce qu'on l'a découvert l'an dernier, ils ont lancé sa carrière dans l'industrie du disque, qui est, comme chacun le sait, sinistrée par la vente de sonneries de portable, avec un album qui dure encore, on en est au 5e single actuellement, qui s'appelle Cool, donc c'est dire si ça continue. En général, c'est un show absolument monstrueux, qui cette année a lieu au Portugal, qui est présenté, tenez-vous bien, par le présentateur de MTV, Mésopotamia Communiste, qui est une chaîne publique sous licence avec derrière un gros néon et tout. C'est un énorme sketch qu'ils ont fait. D'ailleurs, ils passent des soi-disant extraits de ces émissions, etc. d'une heure. C'est à se pisser dessus de rire, hein. C'est pour ceux qui ont le câble. Et cette année, eh ben, figurez-vous que MTV France a dit qu'ils allaient doubler toutes les émissions. Ouais, tant qu'on y est, pourquoi ils doubleraient pas les clips de 50 Cent et tout ça, ou d'Eminem, hein. Enfin, moi, je trouve ça débile comme idée. Mais bon, le doublage français sera assuré, enfin, la traduction simultanée sera assurée par... Allez, je te laisse dire.
Bruno Solo et Yvan Le Bolloc.
Donc là, on attend de voir ce que ça va donner. Personnellement, on a des gros, gros doutes. Et puis voilà, côté télévision aussi. Et concours musical de chansons remises de prix. Vous savez qui a eu le prix...
Eurovision.
Eurovision.
50 ans de l'Eurovision.
Ah, non. Est-ce qu'on ose le dire ou non?
Enfin, moi, je le sais parce que j'ai écouté l'émission, mais...
T'as regardé?
Non, j'ai pas regardé, non. Mais je sais que ça a eu lieu. Non, t'es fou, toi.
Bon, allez, si je te dis qu'ils viennent d'Europe du Nord, Pape de la Disco...
Ouais, c'est... ouais, vous l'avez dit, du sport l'a dit la semaine dernière, c'est Abba, non?
Oui, c'est Abba, oui.
Qui a chanté. Ah ouais, ben c'est pour ça qu'ils ont gagné le droit de se faire remixer par Madonna. Parce que tu sais que son single, c'est une reprise de...
Oui, exact, oui.
Enfin, bon. Reprend juste le refrain, hein.
Oui, vaguement, mais bon. D'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de reprendre de plus, la coupe ou les fringues? C'est en train de chantonner derrière, donc voilà. Nous, on a terminé, on est en train déjà de s'échanger, préparer pour la semaine suivante. Et là, Thomas, lui, il a foncé dessus.
Oui, alors deux trucs à dire, c'est que là, on a récupéré une BD Street Fighter avec Vega en couverture. Donc là, c'est trop fort, c'est Street Fighter.
Ouais, on a déjà parlé, hein, voilà. Street Fighter.
Et donc c'est l'occasion de signaler. Et ça c'est vrai, on vous l'annonce. Et
la
c'est...
sortie du film, l'adaptation au cinéma.
Non.
Parce qu'il paraît, il y a Jean-Claude Van Damme.
Oui, il paraît, ouais.
Non. Et Kylie Minogue.
Non, en fait, ce qu'on va vous annoncer, c'est que ce sera la semaine prochaine.
Ah bah.
La semaine prochaine, spéciale autour du réalisateur de Vidéodrome, de Scanners, de Chromosome 3, de La Mouche, de Existence. David Cronenberg lui-même, on va faire une spéciale autour de sa filmo à l'occasion de la sortie de son nouveau film, History of Violence.
Et oui.
Qui sort mercredi prochain, on va s'empresser d'aller le voir. Enfin, moi en tout cas, je sais pas, Xavier. Sabrina, tu m'as dit que t'étais pas trop fan de son univers un peu torturé.
Oui, mais je pense que je vais y aller voir.
D'accord.
Voilà.
Ah, c'est parce qu'il y a Viggo Mortensen, c'est pour ça.
Oui.
Moi j'ai vraiment trop de films à aller regarder. Ça va être chaud, je sens. Supplément week-end se termine, donc il n'y a pas du sport cette semaine. Donc l'émission est reportée et à la place, vous aurez une programmation musicale. Rock, je peux vous le dire. Voilà, vous êtes prévenus. Supplément week-end donc se termine. Rendez-vous pour nous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de midi. La suite des programmes, non pas de suite. Je vais demander à Thomas de sortir le procès-verbal de l'émission. Thomas, le résumé pour ceux qui ont manqué le début.
Alors aujourd'hui, vous avez eu droit à un jingle remplacé en temps réel. C'est le jingle du cinéma. On a eu l'absence de du sport, mais compensé agréablement par Sabrina. Xavier qui s'est trompé de bouton. Trempé de bouton pour lancer les micros, toi. Et puis la rubrique télé a été assurée du mieux qu'on pouvait par Xavier, Sabrina et votre serviteur.
Non, même pas en plus. Juste peut-être 2-3 trucs à annoncer. Donc les progs musicales que l'on a passées, donc il y avait des notes en introduction, mais surtout les deux morceaux qu'on a mis en interruption. John Ace Hand, la reprise du thème de Final Fantasy X, et Falling, le pot pourri de Tetris. On les mettra en ligne sur le site de l'émission. Puisqu'il s'agit en fait de remix qui sont libres de droit. L'un est produit par Overclocked Remix et l'autre par Video Games Mix. Donc vous allez sur le site de la radio www.radio-fmr.net. Vous allez dans les émissions du samedi, supplément week-end. Vous pouvez réécouter toutes les émissions, notamment parce que j'ai en FM, ça a été une bouillie infâme à cause de la compression. Donc on a complètement loupé la diffusion des morceaux. Vous vous rendez compte qu'ils sont très fins, pour les télécharger, vous écouter tranquillement de votre baladeur ou réécouter les précédentes émissions, pourquoi pas, et voir celle-ci. Donc voilà.
C'était laquelle comme émission aujourd'hui? C'était la 42? Non,
je dois être à 48, un truc comme ça, mais je ne suis pas sûr. La suite des programmes du reggae avec Zarma Farah à 15h, 17h, vie d'ordure, c'est du punk. 18h, pour une fois que tu peux l'ouvrir, le numéro de la station, c'est le 05 61 580 580, et vous pourrez l'ouvrir parce que je suis sûr qu'il y aura très peu d'appels, malheureusement, parce que c'est assez dur de faire des collaboratifs c'est pas comme quand j'ai commencé au début des années 80, hein, les petits jeunes, ils savent plus ce que c'est que la démocratie directe, ils savent que de parler de foufoune. 19h, Dada, découvre la vie, 20h, la Stétéro Experience, 21h, 30 Quid Sky, 23h, Breakbeat Experience, et profitez-en. Prenez votre baladeur en position FM, etc. Et profitez, il fait beau, il fait chaud dehors. Nous, on va essayer de manger en terrasse ou je sais pas.
Ouais.
Et puis, c'est l'occasion, voilà. Sabrina, merci d'être venue.
Vous en priez, avec plaisir.
Thomas, ça rectifie dans les forums, hein, quand même.
Ouais, faudra aller jeter un coup d'œil.
Ouais.
Allez, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Ciao.
This next one is called pedal pushing.